France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit quelqu'un qui fait partie de la vie de millions de Français depuis presque 20 ans. Un visage, une voix, un ton qui ont grandi avec Internet et parfois même avant Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cyprien, c'est l'un des tout premiers grands créateurs du web français, un pionnier qui a vu naître YouTube, qui l'a façonné, qui a surtout réussi quelque chose de rare, duré, sans se répéter. Mais ce serait une erreur de le définir uniquement comme YouTubeur. Cyprien est aussi auteur de bandes dessinées, réalisateur, scénariste, créateur de jeux vidéo, un artiste multiple qui a toujours préféré l'écriture, la mise en scène et le temps long à l'immédiateté. Il revient aujourd'hui avec le pire guide du Japon, un faux guide et un vrai livre d'amour pour un pays qui l'obsède depuis l'enfance, un Japon loin des clichés, raconté avec humour, tendresse, curiosité et sûrement beaucoup de sincérité. Cyprien est avec nous à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Cyprien, comment ça va?
Salut, je t'écoutais pas en fait.
C'est quoi?
J'étais là, je te regardais, je me suis dit, c'est génial, la dernière fois qu'on s'est vu, on était pas du tout dans le même cadre, avec les petits logos France Inter.
On s'était vu pour une émission que tu animais à l'époque, que tu co-animais, ça fait 301 vues. C'était très cool d'ailleurs.
Merci. Mais là, merci de m'inviter, c'est trop cool.
Bah non, avec grand plaisir.
Génial.
Avec grand plaisir, je suis content de t'avoir.
J'ai l'impression qu'il faut dire des trucs intelligents ici, c'est fou.
T'as le droit de dire ce que tu veux.
J'ai jamais fait ça de ma vie, donc c'est pour ça que.
Dire des choses intelligentes, c'est pas vrai.
J'adore, non mais trop bien. Merci de l'invitation.
Effectivement, on va en parler, mais d'abord, il y a ton actualité, mais t'es sur Internet depuis...
Trop longtemps, tu peux le dire.
Non,
il faut partir, monsieur.
Depuis presque 20 ans, en fait. Pas encore, mais presque 20 ans.
Ouais.
C'est vrai que ça fait quelque chose de dire ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que t'es toujours sur YouTube, mais tu fais partie de ces créateurs qui ont toujours cherché quand même à te renouveler, à toucher à d'autres choses. Est-ce que t'as l'impression que c'est un des secrets pour continuer, en tout cas, à exister et à être pertinent?
Ouais, en fait, c'est marrant, t'es un peu obligé de t'éloigner de YouTube pour rester dessus. C'est-à-dire que si vraiment tu dédies ta vie à ça, et pour le coup, je parle un peu aussi au nom de tous mes collègues youtubeurs, en fait, c'est un environnement qui parfois peut aussi être trop challengeant avec les vues, les tendances, etc. Ouais. Et en fait, du coup, moi, mon secret de longévité, parce qu'on peut se dire, ouais, 20 ans sur Internet,
passe
à autre chose, mec, move on. Et en fait, non, si j'aime bien créer là, c'est aussi parce que je me suis éloigné de cette obligation de produire régulièrement, etc. J'ai réussi à m'émanciper parce que je peux me le permettre financièrement, dans les opportunités. Donc, c'est pour ça que tous mes potes youtubeurs ils subissent plus la pression des chiffres, etc.
Ouais.
Eux, ils ont peut-être pas le plan B ou autre chose à faire. Moi, heureusement...
T'as gagné ce luxe-là aussi en travaillant, bien sûr, mais en tout tu t'es affranchi de ça.
Ouais, et j'en profite beaucoup. Donc, par exemple, je prends l'exemple de la BD.
Ouais.
Passer des mois sur une BD sans produire des trucs sur YouTube, etc., financièrement, c'est impossible pour plein d'autres gens.
Bien sûr.
Collègues youtubeurs. Et du coup, je pense que je réussis à rester créatif, tu vois, et de kiffer ce que je fais parce que j'ai un peu la pluralité des médias face à moi. Quoi.
Alors, ce livre.
Pluralité des médias, n'importe
j'adore,
quoi.
J'adore, mais j'ai compris.
France Inter.
Oui,
mais
on sent
plus, que mon livre, il est les mêmes couleurs que le logo, ça me rend ma boule en fait. Je fais, mais qu'est-ce qui m'arrive?
Et justement, ce livre, ça s'appelle Le pire guide du Japon. Pourquoi tu l'as appelé comme ça alors que c'est une vraie déclaration d'amour, justement? Pourquoi t'as voulu prendre un peu ce titre un peu en forme de pied de nez comme
mais
ça?
Mais ouais, mais pour le coup, c'est vraiment un code YouTube. Je crois que t'as déjà vu des vidéos
bien
genre
sûr.
Les pires notes au brevet du
bas,
je sais pas quoi.
Et
donc en fait, c'est un petit peu ça. J'aimais bien avoir un titre qui soit un petit peu. Non, mais en fait, faire de la bande dessinée. C'est toujours été un rêve de gamin et de dire, au fait, bonjour, je suis auteur de bande dessinée, homme de lettres, invitez-moi sur France Inter pour que j'en discute. Là, je trouve que c'est trop, je sais pas, c'est pas moi.
C'est une manière de rendre
exactement.
Le moment moins solennel, en fait.
Voilà. Et en plus, la BD, c'est un milieu que j'affectionne tellement, presque je le sacralise.
Ouais.
Et quand je vois des auteurs de BD qui sont incroyables, quand je vois aussi que c'est un milieu qui est hyper précaire aussi, tu vois. Et en fait, je me dis, les gars, je viens pas pour rejoindre la famille, je viens juste pour m'exprimer, tu vois. Et du coup, ma bande dessinée, c'est un petit pied de nez à ma carrière, quoi.
Ouais.
C'est plus ça. Et du coup, j'étais beaucoup plus à l'aise à dire le pire guide du Japon plutôt que les incroyables aventures fascinantes, et, tu vois, de Cyprien, au pays du soleil levant, entre tradition et
modernité.
Bien sûr.
Ce que tu refuses, exactement.
C'est
ce que tu détestes.
C'est un des trucs que j'ai dit dès le début. Je déteste cette appellation, mais bon.
Alors, justement, parce que avant de rentrer un peu dans le vif de ce livre, toi, cette vraie passion pour la bande dessinée, moi, je me souviens que je t'avais écouté. Moi, j'ai pas une grande culture bande dessinée, mais j'écoutais à l'époque un podcast qui était consacré à la bande bande dessinée qui s'appelait La Vignette, dans laquelle tu avais été invité à l'époque. J'ai adoré, et donc, on se rendait compte aussi que c'était vraiment quelque chose d'important pour toi, comme tu viens de le dire. Ça naît comment, ça, toi, cette passion-là? Est-ce qu'il y a des auteurs ou des BD particulières qui t'ont fait tomber
tout
dedans quand t'étais petit?
Akira Toriyama en premier lieu, ouais. Donc c'est vraiment les mangas. Je me rappelle même des demi-tomes, donc ça pour les gens un peu génération Club Do, etc. Ouais. Les demi-tomes de Dragon Ball qu'il y avait en librairie. Pas en librairie, mais en. Là où on achète son journal, en kiosque.
En kiosque, ouais, tout à fait. Ouais.
Et du coup, je découvre ce style noir et blanc, hyper dynamique. Et j'avais lu pas mal de franco-belge, j'ai toujours aimé le dessin et tout. Donc j'ai lu beaucoup d'Astérix, je les relis encore aujourd'hui. Et c'est vraiment. Mais là, il y a un truc nouveau, comment ils dessinent les véhicules,
même
comment ils dessinent
dans
les personnages.
Dans le trait, j'imagine, tout à fait.
Exactement. C'est un peu trash, ça casse les codes, tout est un peu parodique, tu vois, et en même temps hyper dynamique. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup fasciné. Et donc, ouais, la BD, j'adore. Et ensuite, dans un second temps, au-delà du manga, etc., moi, il y a peut-être l'auteur qui m'a le plus inspiré dans le style graphique et tout, c'est Jamie Hewlett, le dessinateur de Gorillaz, ouais. Et la BD Tank Girl, par exemple. Et donc, ouais, là, je me suis dit, mais en fait, oui, le style de dessin, comment tu racontes une histoire, comment tu crées des personnages, ça peut prendre plein de formes, et plein de formes hyper inspirantes et des personnages hyper attachants. Donc, ouais, la BD, en fait, c'est vraiment... toute ma vie, c'était mon rêve de gamin, vraiment.
Tu voulais pas être vidéaste, tu voulais pas être comédien, tu voulais pas... À la base, c'était ça, être.
Ouais. Quand j'étais gamin, moi, je viens, parents, immigrés de Roumanie, on arrive dans le sud de la France, etc. Moi, l'audiovisuel, le cinéma, même la BD, en fait, ça paraît.
C'est loin
vraiment,
de toi.
Voilà, ouais. C'est très inaccessible. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent comprendre ça aussi. Et c'est par la force des choses où j'ai découvert mon métier, que j'ai même presque inventé mon métier à faire des vidéos sur Internet et maintenant ailleurs. Donc c'est une sorte de, finalement, être youtubeur c'est un accident de parcours, le fait que je refasse de la BD c'est aussi un accident de parcours, et donc c'est marrant.
Mais tu reviens presque à tes premières amours finalement, ouais. avec un projet comme celui-là.
Exactement, ouais, et puis c'est aussi une manière de dire, la BD c'est un art noble. Il y a une interview de Benoît Poelvoorde que je trouve fascinante, où il dit que le cinéma, le parent pauvre de la BD, et je trouve ça génial. Ouais. Il était hyper bien. Il dit qu'en gros, quand tu fais du cinéma, et t'as plein de gens qui travaillent pour toi. Il dit, quand tu fais la BD, tu vas faire ton décor, ton découpage, t'es seul face à ta planche.
Seul,
et du coup, il dit que pour lui, c'est un travail monumental qui mérite un petit peu toutes les lettres de noblesse. Et je le rejoins un peu là-dessus.
Ouais.
Donc, c'est pas un hommage à la BD, parce que c'est presque une insulte à la BD, ce que j'ai fait. Mais, mais par rapport à tous les auteurs que je respecte énormément.
Non, mais en tout cas, c'est ta manière d'apporter
voilà,
en tout cas
dire,
ton...
s'il vous plaît, intéressez-vous à ça et vous allez voyager loin et fort avec tout ça et apprendre des choses sur vous-même.
T'as cité le choc Akira Toriyama, donc en tout cas, entre autres derrière Dragon Ball, c'était aussi le... Évidemment, nous, on a découvert ça via le Club Dorothée, et mine de rien, on ne se rendait pas forcément compte que le Club Dorothée, c'était une vitrine vers toute une culture qu'on ne connaissait pas du tout.
On regarde
ça comme des dessins animés, exactement.
Ouais.
C'est là, toi, que tu... Est-ce qu'à ce moment-là, tu comprends aussi qu'il y a le Japon derrière, tu t'intéresses au Japon via ça ou...
C'est arrivé un petit peu après, ou quand j'ai lu d'autres mangas qui parlent mieux du pays, ou en tout cas plus frontalement. Mais quand tu regardes, genre... Je repense aux dessins animés de l'époque, quand on était gamin, mais genre Juliette Je t'aime, ou Ranma et demi, tu te dis... C'est pas le quotidien, c'est pas le même que le nôtre, tu vois.
Oui,
ils sont sapés, c'est quoi ces délires? Ils vont dans des bains chauds, moi j'ai pas ça, tu vois. Et là, tu te dis, bon, il y a un truc bizarre, une sorte de setup un peu étrange.
Ouais.
Et après, moi, oui, c'est en lisant d'autres mangas, notamment GTO, Great Teacher Onizuka, qui est un manga hyper intéressant et qui parle énormément de la société japonaise. Et là, en fait, il décrit tellement qu'en fait, tu te dis, mais attends, mais ce pays existe, tu vois. Et du coup, c'est un peu sur le. Au fil des lectures, ouais, où tu comprends qu'en fait, ça concerne plein de... Enfin, toujours le même pays, quoi.
Alors, j'ai eu la chance, moi, d'aller au Japon une fois, beaucoup moins que toi, mais je suis allé en 2019. Et je sais pas, toi, comment t'as vécu la première fois que t'es allé là-bas? Moi, j'ai jamais été autant dépaysé que là-bas. C'est-à-dire que même si c'est un pays qu'on fantasme énormément, sur lequel on a quand même beaucoup d'informations, mais je sentais vraiment que c'était effectivement une culture qui était radicalement différente de la nôtre, à plein de niveaux. Je sais pas, toi, comment t'as vécu ça? Il y avait vraiment un côté à la fois, c'est extraordinaire, c'est vraiment différent de notre quotidien à nous.
Est-ce que tu t'es senti genre un peu perdu?
Perdu, mais dans le bon sens du terme, mais beaucoup plus que dans des pays qui sont aussi lointains, mais dans lesquels parfois, je sais pas, j'arrivais plus à me raccrocher. Parce qu'ils avaient l'air de ressembler à leur quotidien.
Après, ça reste une société, ultra capitaliste et tout ça. Donc, en fait, si tu veux dépenser des choses et exister par ça, en fait, tu vois, ça ressemble vraiment à toutes les sociétés occidentales, tu vois. Mais au final, c'est plutôt les gens, en fait, que je trouve assez fascinants.
Ouais.
Et parce que tu vois que le rapport à la personne et pourquoi ils font les choses, tout est très différent de la France. Et en même temps, il y a énormément de connivence entre les cultures, tu vois. le goût pour l'histoire, pour tu vois, pourquoi ils font les choses. C'est des artistes incroyables et vraiment dédiés à leur passion. Et nous, on a aussi beaucoup ça en France, la cuisine, la gastronomie.
Ouais,
et c'est en fait, je crois que c'est le fait que ce soit très différent et en même temps très similaire.
Okay.
Qui me fascine aussi au Japon. J'avoue, si c'est juste un pays très lunaire, etc., ce serait bien, mais je pense qu'il y a d'autres lieux encore
t'es,
plus.
T'es allé au-delà du fantasme, toi aussi, ça. C'est que vraiment, c'est un pays que tu connais aujourd'hui.
Voilà.
T'as des amis là-bas. Enfin, c'est,
exactement,
pas
c'est
juste
social aujourd'hui.
Sur...
Ouais. Ouais, exactement. Quand j'y vais voir des potes qui ont des enfants, qui ont le même âge que mes enfants. Enfin, tu vois, il y a ce truc, genre vraiment, c'est un voyage presque un petit peu familial. Et, et j'avais besoin de ça. C'est-à-dire qu'au début du. Enfin, je voulais être plus qu'un touriste. Pour mieux comprendre aussi les gens et tout. Et au bout d'un moment, bah en fait, le pays, tu l'as un peu démystifié. T'as arrêté de... Enfin, tu vois, il y a tous les clichés, les trucs qui sont tombés les uns après les autres. Et tu dis, ah oui, d'accord. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'adore y aller. Et au final, quand j'ai voulu écrire une BD et sortir des choses et tout, je me suis dit, mais du voyage, des anecdotes de voyage. Parce que c'est ça, au final,
ouais,
tu vois, ce livre-là.
Mais finalement, ça ressemble... à un format populaire sur YouTube qui est le vlog, sauf que tu le fais de manière différente. En fait, tu combines un peu finalement des exercices que tu maîtrises bien.
C'est ça, c'est des petites analyses et des petits trucs. Le vlog, effectivement, c'est un truc très spontané. Et effectivement, dans ma manière, comment dessiner les cases, il y a un truc un petit peu éthéré.
Ouais.
Y a pas des cases bien lignes et tout, bien droites. C'est plutôt des sortes de petites bulles de couleurs et avec les décors qui s'affichent à l'intérieur. Parce que c'est genre des petites bribes d'anecdotes. Et d'ailleurs, j'ai aussi emprunté des anecdotes de potes qui m'ont fumé de rire.
Ouais.
Parce que le voyage, on pourrait dire ce qu'on veut, que ce soit en Asie ou ailleurs, hein, mais t'as toujours ton lot d'anecdotes.
Évidemment.
Des trucs qui se passent beaucoup mieux que ce que t'imaginais, et l'inverse également. Et ben, en fait, c'est toujours divertissant, moi, qu'on aille quelque part en France ou à l'autre bout de la planète, il y a toujours un truc à raconter. Et le Japon, c'est ce qui est dit dans la préface par Florent Chavouet, un auteur que j'adore, il dit que le Japon est un pays d'anecdotes, et ça c'est vrai en fait.
Mmh.
Même si tu genre, restes en bas de ton hôtel, tu vas découvrir plein de choses et des trucs très surprenantes et du coup c'est une manière de faire voyager aussi les autres avec des petits moments cocasses quoi.
Bon, je propose qu'on écoute un morceau et je sais que tu l'aimes ce morceau car j'ai vu un passage tourné sur les réseaux dans une vidéo de McFly et Carlito où vous fredonniez le morceau Dans ma rue de Vald présent sur Magnificat.
S'il te plaît.
J'adore cet album.
Vraiment.
Première écoute, je n'ai rien compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait?
Okay.
Deuxième écoute.
Et toi, t'es quelqu'un qui écoute Vald de base?
Ouais.
Okay.
Mais j'étais
donc,
un peu désarçonné.
La réaction de tous les vrais personnes
peut-être,
qui suivent Vald.
Ouais, tout à fait. Vraiment d'être un peu paumé par ce disque. et maintenant, je l'adore. Donc, je pense qu'on écoute ce morceau Dans ma rue. Donc, de Vald, présent sur son dernier album, Magnificat. Et on continue juste après à parler avec Cyprien.
Tu marches dans la rue, tu vois des gens qui parlent seuls. Dans leur voiture qui danse seul. Dans l'ascenseur y'a plus personne. Ok, des fois tu marches dans la rue, on t'arrête pour faire un don. Au feu rouge on te fait l'aumône et toi tu regardes le GPS. Ok, une fois j'étais dans la rue, j'entends qu'on m'appelle mon chéri. Je me suis retourné, j'ai décliné, j'ai dit je fais pas de lèche-vitrine. Ok, une fois j'étais dans la rue, je faisais pas de lèche-vitrine. Quand un vendeur à la sauvette m'a proposé des tours Eiffel. J'aime marcher dans la rue, il se passe toujours un truc. J'aime marcher dans la rue, il se passe toujours un truc. J'aime marcher dans la rue, il se passe toujours un truc. J'aime marcher dans la rue. Des fois tu marches dans la rue, on dirait le 14 juillet. Des fois tu sais pas s'il fait ou non, cela il manifeste. Ok, des fois tu marches dans la rue, tu les vois revenir du sport. En costard revenir du taf, quand toi tu reviens du PMU. Ok, une fois j'étais dans la rue, y'avait un chanteur en indé. Je trouvais qu'il chantait mieux que moi, j'ai mis une pièce dans son gobelet. Ok, une fois j'étais dans la rue, il faisait beau, je pétais une clope. Quand on m'en a demander une, j'ai menti, j'ai dit j'en ai plus. J'aime marcher dans la rue, il se passe toujours un truc. J'aime marcher dans la rue, il se passe toujours un truc. J'aime marcher dans la rue, il se passe toujours un truc. J'aime marcher dans la rue. J'aime marcher dans la rue, dans la rue. J'aime marcher dans la rue. J'aime marcher
Vald dans la rue, donc morceau présent sur Magnificat, son dernier album en date.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
On est avec Cyprien Yov, donc qui a sorti le pire guide du Japon.
Oui, oui, c'est ça, une bande dessinée.
Exactement, une bande dessinée.
Je me permets de juste de mettre un petit peu l'emphase sur le fait que tu lances le jingle avec ton petit stylo et je trouve ça très classe.
C'est vrai.
Les gens le voient pas forcément.
C'est vrai,
mais. Il y a ce petit truc, oui. Genre, tu laisses le jingle et tout. Avec,
c'est
avec
aussi un spectacle visuel.
Ah ouais, c'est pour ça. Voilà, je fais une description.
Quand on
imagine
une émission, on
n'a
pas tout. Bien sûr, on n'a pas tout. Alors, j'aimerais aussi parce que je crois que tu es. Maintenant, même si tu connais bien le Japon, il y a aussi des choses qui t'ont surpris, je crois, quand tu y es allé. Notamment, je crois que tu as découvert qu'il y avait une campagne du gouvernement japonais pour inciter les gens à boire de l'alcool. Ça, c'est exceptionnel, ça.
Mais comment dire, il n'y a même pas de blague à cette anecdote, en fait. C'est vraiment ça. Ils se disent, ça fait tourner l'économie, la bière. On voit une petite, perte d'intérêt des jeunes pour l'alcool, etc. Ils se sont dit, faisons une campagne de pub pour qu'ils continuent à boire des bières, quoi.
Ouais,
je fais, waouh.
Ce qui semble très éloigné, effectivement, de ce qu'on connaît.
Ouais, c'est ça, j'avoue. Tout le monde, ça a étonné tout le monde, mais c'est vraiment.
Oui, c'est juste une info, c'est une information.
Factuelle.
Comment t'as. Moi, je sais qu'on fantasme beaucoup, tu sais, quand on parle de Tokyo, notamment de Shibuya, etc. Ah. Est-ce que la vie nocturne, c'est quelque chose qui t'a intéressé là-bas?
Ça m'a pas intéressé, mais du fait du jet lag, quand t'arrives les premiers jours, sans t'en rendre compte, t'es déjà dans ta nightlife, tu vois.
Ouais.
T'es, il est 3 du mat, t'as pas envie de dormir, et il y a quelque chose qui répond à un besoin, tu vois, et tu dis, c'est super, c'est exactement ce que je cherche. Donc j'ai le souvenir d'avoir bu des coups, tu vois, aller dans des endroits pour faire des fléchettes avec des sortes de salaryman torchés qui vont rentrer chez eux.
Ça c'est une réalité ça, les fameux salaryman, les gens qui sont...
Ouais,
complètement. Oui, c'est pas forcément...
Moi, des gens torchés, Redmore,
en costume.
J'en parle dans la BD, je pense que j'ai vu les gens les plus bourrés de ma vie à Londres et à Tokyo, quoi. Vraiment, mais torchés de chez torchés.
Et qui vont au travail le lendemain matin,
Je leur
t'imagines en tout cas.
Pas, mais ouais, mais c'est malheureusement la réalité. Et il y a un vrai truc de genre, c'est arrivé à beaucoup de gens, et tu termines vraiment ta nuit dehors.
Ouais.
Tu vois, t'as terminé à 5 du mat, tu récupères dans 3, tu vois, t'arrives dans 3 heures au bureau. Tu vas pas prendre capsule hôtel parce que t'en es incapable de te rendre jusqu'à tu vas te faire 200 mètres. J'ai vu plein de gens qui ont abandonné. Tu les vois comme ça avec la cravate sur le front et ils s'endorment là sur un coin de truc dans la rue. Donc ça existe.
Dans les fantasmes aussi, tu sais qu'on a même, tu sais, sur la civilisation japonaise, on peut imaginer, enfin je crois que c'est une réalité, mais qu'il y a vraiment des codes, parce que je sais que toi maintenant tu y vas, tu t'es fait des amis, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, et on peut avoir une image de gens qui peuvent être durs, en tout cas à accéder en tout cas à ces gens-là. Tu sais, on peut imaginer qu'il y a une forme de barrière, en tout cas, qu'il y a des codes qu'on a besoin de maîtriser avant de vraiment devenir éventuellement ami. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Est-ce que ça t'a pris du temps? Ou est-ce que ça a été plus simple que ce qu'on peut imaginer de sociabiliser
au
Japon?
Comment je le ressens moi, c'est qu'il faut accepter cette barrière, tu vois. Il y a ce truc du genre, tu vas pas chercher un côté français chez un japonais, tu vois. Et après, bien sûr, il y a autant de types de japonais différents qui sont nombreux, donc il faut pas croire. Après, bien sûr, tu vas, mais c'est pas si éloigné d'ici, en fait. Tu vas trouver des gens qui sont hyper accueillants, d'autres qui sont hyper méfiants, et après quand tu vas dans les campagnes, etc., tu vas trouver des gens mais beaucoup plus détendus, tu vois ce que je veux dire.
Parce que toi, le Japon, c'est pas uniquement Tokyo, il faut le dire, c'est que t'as voyagé. Voilà,
bien sûr, ouais. J'avoue que aller à Tokyo, j'aime bien pour me divertir et tout, mais tous mes voyages, là j'y vais là dans pas longtemps, c'est aussi pour explorer d'autres endroits. C'est comme pour moi la France, j'adore Paris y vivre et tout, mais j'adore visiter tout le reste, que ce soit les campagnes, la montagne, le bord de mer, les autres grandes villes. Là en ce moment je fais ma tournée des dédicaces et c'est un vrai plaisir, tu vois. Je fais juste une story en disant « j'arrive à Toulouse, c'est quoi les spécialités ?» Mais man, y a une discussion de fou sur tu vois, les trucs qu'il y a à faire, les choses à voir, à goûter et tout, et c'est pour ça, en fait, c'est ça que j'adore aussi au Japon, tu vois, c'est que je vais retrouver un petit peu les mêmes choses qu'en France, ce niveau de curiosité, etc. Donc bref,
quand tu parles de faire une story quand tu vas à Toulouse, t'as une communauté qui est là depuis longtemps. Est-ce que tu te rends compte de ça, que tu sais que t'as une communauté aussi qui accepte que tu fasses autre chose? Alors évidemment, tu vas me dire, je fais ce que je veux, et t'as bien le droit. Mais mine de rien, on peut parfois être prisonnier, tu sais, de ce qu'on a donné pendant des années, de ce que les gens projettent sur toi aussi, de ce qu'ils ont l'habitude de consommer, pardon pour le terme, de toi. Et mine de rien, toi, t'as quand même proposé des choses différentes.
Mais assez rapidement, je l'ai fait, de sorte à ce que je voyais très bien où ça pouvait m'enfermer. Et du coup...
T'avais cette conscience-là très tôt?
Ouais. Je me suis dit, ça fait, je sais pas moi... Je fais le sketch sur, les vieux à la technologie numéro je sais pas combien.
Ouais.
Et je me dis, est-ce que je commence pas à me parodier un peu moi-même, ouais, ouais. tu vois, où est-ce que je vais avec ça et tout, et je me dis, y a des gens qui m'écoutent, qui veulent se divertir dans un premier lieu, mais potentiellement même être curieux de ce que je peux raconter d'autre, et donc assez rapidement, j'ai commencé à investir dans des courts-métrages, tu vois, mettre de l'argent là-dedans et tout, vouloir faire du dessin animé, de la série audio, enfin plein d'autres choses. Et du coup, je pense que les gens, bien sûr, ceux qui aimaient que le sketch assez, tu vois, frontal, c'est ce qu'ils cherchent et c'est ce qu'ils veulent, etc. Et donc, ils sont peut-être déçus que je m'éloigne de ça. Mais aujourd'hui, force est de constater, quand je vais en dédicace ou quoi, les gens, ils me disent que globalement, ils sont fidèles aussi
ouais.
à une vision et à un truc plus large que juste un sketch qui les a fait marrer. Et du coup, je suis content et un peu fier de ça. Bon, il y a des gars qui... Je vois en dédicace des gens, ils montrent un selfie d'une dédicace qu'on a fait il y a 10 ans. Dans ma vie, je veux dire, j'ai 36 ans, donc tu vois ce que je veux dire, c'est des choses très... ça passe quand même vite. Et je me dis, à chaque fois, je suis genre presque choqué de la fidélité.
Ouais,
je me dis, mais Internet, c'est des années chiens. Tu sais, une année sur Internet, c'est, tu vois, cette année dans la vraie vie, c'est, ça passe hyper vite. Il y a plein de tendances, il y a plein de youtubeurs qui ont disparu, il y a plein de. Et je me dis, mais oh, c'est, je me sens, mais genre béni de ça en fait.
Ouais,
je
ouais.
me dis, waouh, les gars, c'est vraiment fou. Et je pense que ce qui les touche, c'est aussi ça, c'est de dire, c'est quelqu'un qui veut s'exprimer et pas forcément juste divertir assez.
Ouais.
Voilà,
et peut-être pas uniquement faire la plus grosse vidéo chaque semaine, ou en tout cas pas uniquement. Tu pourrais, j'imagine, même d'un point de vue très cynique, gagner encore plus des gens que tu le fais si tu sortais une vidéo par semaine avec un sponsor différent.
Je tiendrais pas, longtemps comme ça.
Ouais.
Je me connais très bien. Je sais que j'ai besoin d'explorer plein de choses et tout pour ça. Et inversement, je connais des gens, ils font genre un truc, ils le font hyper bien et ils ne s'en lassent pas. Ils ont, tu vois, et je suis assez admiratif de ça parce que tu vois, là tu parlais de 301 vues. C'est une émission que je faisais sur Twitch de manière hebdomadaire, c'était vraiment bien. J'en ai reparlé là récemment sur les réseaux, les gens me disent putain, faut que ça revienne, j'ai écouté ça de ouf et tout. Et la vérité, c'est que je suis pas fait pour l'exercice hebdo, hein. Tu vois, c'est pas non plus gueudin, tu vois. Mais parce qu'en fait, mon cerveau, il va se lasser, il y a pas le, tu vois, j'ai besoin un peu de tester plein de choses et tout. Bref, et je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent là-dedans aussi, tu vois, il explore, comme Vald avec son album.
Exactement. Cyprien est avec nous jusque 23h. Cyprien, est-ce que tu sais quelle est la vidéo sur ta chaîne qui a le plus de vues ?
L'école, peut-être. Bon,
exactement, l'école. Tu sais combien de vues elle a ? Aujourd'hui, moment où on se parle.
Dirais 40 millions.
Eh bien, tu fais exprès de te sous-estimer ou...
Ah non, 50 alors.
Elle a plus.
Mais non.
Elle est à 61 millions de vues, l'école.
Ah ouais.
Ouais, et ça ressemblait...
Bah, c'est mérité, pas du
à
tout.
Ça.
Ça fait plusieurs années que l'école s'est terminée pour moi. Pourtant, je peux pas oublier plein de petits trucs que je déteste à l'école. Des trucs mais tout cons, mais qui m'énervent. La mine de mon crayon qui reste au fond du taille-crayon. Quand je fais baver un trait tracé en enlevant la règle. Collé avec la colle UHU alors qu'il y en a plus. Or du coup, je suis obligé de gratter le petit truc en plastique au fond pour récupérer de la colle. Bon, quand tu fais ça, souvent ça veut dire achète une nouvelle colle. Froisser sa feuille en gommant. Mettre ma main sous la table et toucher un chewing-gum.
Oh !
Mon voisin qui fait tout pour pas être copié.
61 millions de vues.
Ouais.
Et c'était aussi une autre époque même de YouTube, tu sais, c'était vraiment face caméra, dans la chambre.
Il y a combien de temps ? Il y a 10 ans ?
Je crois qu'il y a 12 ans.
12 ans ?
Je crois, si je veux pas dire bêtise, mais je crois que j'ai regardé ça tout à l'heure, je crois que c'était il y a 12 ans.
Du coup, c'est il y a tellement longtemps que maintenant, en l'écoutant, parce que j'ai pas vu cette vidéo depuis.
Oui, j'imagine que tu regardes pas ça à tes vidéos tous les jours, oui.
Et je me dis, en fait, peut-être mes enfants vont relate, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? tu vois, ça va sauter
alors,
une génération.
Ça,
ouais. Ah ouais, mais quand, gomme, colle, etc.,
sûr,
c'est pas moi, en fait. Moi, je pense à mon gamin, 4 ans, il colle des gommettes, tu vois.
Quand tu écoutes ça, est-ce que ça te semble, parce que quand on regarde même tes vidéos, parce que tu fais encore des choses marrantes sur YouTube, mais qui sont bien sûr beaucoup plus produites maintenant, parce que, en tout cas, souvent, on sent qu'il y a une ambition visuelle, vraiment, dans la plupart des contenus que tu propose aujourd'hui. Est-ce que t'as l'impression que c'est toi ou c'est une autre personne quand tu entends ça ?
Bah, je me dis non, mais c'est moi. En fait, j'ai fait il y a pas si longtemps, j'ai revisionné, c'était quelque chose, toutes mes vidéos depuis le début, ok ? Et certes, c'est des petites vidéos qui font 3 minutes, mais au fil du temps, j'ai commencé à faire des courts-métrages, des trucs longs
ouais.
Et ça m'a pris genre plusieurs des semaines, en fait,
tu vois,
à tout regarder le soir en direct sur Twitch.
Ouais, Twitch, oui.
Et du coup, je me suis fait l'intégrale de ce que j'ai fait. et je suis assez dur avec moi-même, on va dire, sur... voilà.
Tu restes fier de ce qu'a été fait, ouais.
Bah, étrangement, ouais, j'étais assez touché par l'honnêteté de comment je faisais les choses à l'époque. C'est que j'essayais pas de me donner un genre, et tu vois, j'essayais de raconter les choses un peu comme je le pensais. Et c'est con, mais quand tu fais quelque chose assez de manière spontanée et honnête, en fait, bah, tu vois, c'est dur de critiquer.
Oui, oui, même si c'est, même si les choses ont peut-être moins vieilli en termes,
ah ouais, mais ça, ça reste le Facebook. Toi, en fait. Je parle de Facebook. Je dis attention, tu sais, quand tu postes un, tu me fais un post sur Facebook, je dis, mec, deux ans plus tard, c'était déjà oublié. Tu vois.
Bien sûr.
Mais oui, il y a plein de choses qui ont mal vieilli, mais la personne derrière était assez, voilà, je me regarde et je me dis, c'est marrant. Certes, j'ai gagné en assurance et en vouloir faire plein d'autres choses et tout, mais dans la démarche, c'est assez similaire.
C'est pas éloigné, vois, ouais. Est-ce que vieillir, entre guillemets, sur YouTube, c'est aussi parfois mettre moins d'ego? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le sens du chemin que tu prends, toi, parce que même si t'es toujours exposé, que ton visage, ton nom reprennent quelque chose, évidemment, pour beaucoup de personnes, mais que t'es aussi de plus en plus à l'aise avec l'idée d'être derrière la caméra, moins sur le devant de la scène, même si tu le fais encore, et peut-être que tu le feras toujours, mais j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une partie de toi qui a envie... à terme de s'effacer pour que les projets vivent sans que tu aies forcément besoin de te montrer.
Ouais, en fait, c'est pas tant de s'effacer, mais c'est de... Moi, j'aime bien m'exprimer, tu vois. Et ça veut pas forcément dire être devant la caméra, effectivement.
Oui.
Moi, j'incarne tous mes sketchs, etc., parce que c'est le plus simple. C'est le, tu vois, je suis le comédien le plus dévoué, le moins cher que je connaisse. Oui. Donc, c'est assez naturel. Je vais faire un court-métrage, je joue aussi dedans. Mais ça veut pas forcément dire que... Là, par exemple, j'ai plusieurs projets de fiction en tant que réalisateur scénariste et je suis pas tu vois, l'incarnant devant la caméra.
Okay.
Et je pense que je peux apporter plein d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que par exemple, sur mon dernier court-métrage qui parle d'intelligence artificielle, dans les commentaires.
Que j'ai regardé, que j'ai trouvé mortel d'ailleurs.
Merci. Dans les commentaires, tout le monde va parler du scénario, de la mise en scène, des comédiens, etc. Personne ne parle de mon jeu d'acteur. Parce que les gens s'en foutent un peu, tu vois, c'est pas le propos. Et du coup, moi, je me dis, eh ben, je suis content de ça.
C'est une victoire.
Non, mais c'est, ils ont, les gens ont été touchés par là où j'ai mis le plus d'efforts, tu vois, au final, en quelque sorte.
Ouais, ouais.
Et c'est, moi, ça me va très bien. D'ailleurs, c'est une erreur que j'ai eue, que j'ai été un jour dans ma vie, le premier YouTuber en nombre d'abonnés en France.
Oui.
C'était à l'époque, hein, mais c'est.
Bah, tu restes un des plus.
Oui, oui. Mais
je crois que t'es encore dans le top 3, si je dis pas de bêtises, en tout cas, en termes de chiffres.
Mais c'est pas un truc que j'ai cherché,
oui.
Tu vois. Et du coup, ça, c'est le fait que je sois devenu numéro 2, Squeezie, qui est dépassé, sa chaîne a dépassé le nombre d'abonnés de la mienne et tout, bah en fait, je suis très en paix avec tout ça, oui. Parce que c'est pas un truc que j'ai cherché, c'est pas un truc que j'ai gagné, donc c'est pas quelque chose que j'ai perdu, tu vois. Et au final, ça aide. Moi, c'est important, tu vois, d'avoir un climat de pensée, d'expression, où je me dis pas... J'ai des déceptions au quotidien, non, au contraire, c'est que du plus, que du plaisir.
Est-ce que, puisqu'on parle de fiction, est-ce qu'on va avoir un long métrage réalisé par Cyprien?
Malheureusement, il n'y a pas que moi qui dessine.
Ouais. C'est une envie.
Mais oui, j'écris, j'ai eu plusieurs projets qui sont, comment dire, à différents stades. Et oui, je travaille activement, rien que ce matin, j'étais encore
très bien.
Rayon d'écriture, etc. pour développer des soit enfin, ça dépend, des différents projets de fiction. Oui.
Bon, il y a des projets en tout cas. On va écouter un morceau. Je ne sais pas si tu... je pense que tu la connais évidemment. Parce qu'on est un peu dans son ère où elle domine ce pays, c'est Théodora.
Théodora, bien évidemment.
Évidemment, elle a sorti un nouveau morceau vendredi dernier qui s'appelle Des Mythos. Je propose qu'on l'écoute ensemble.
S'il te plaît.
Et puis on continue. Après, on va parler de Takeshi Kitano.
Oh là là.
Mais oui, je te régale. Allez, Théodora, Des Mythos, tout de suite.
Je m'appelle Natalia. Il me dit je t'aime, il me parle de familia. Il me dit de la marijuana. Si tu veux du stress avec lui, viens voir, oui, y en a. Mais on m'appelle Madame Caillou, cœur rebelle et sans cahier. Ça compte pas, belle maison cahier. Je flexais déjà sans carrière. Ce type non, bah ouais, c'est carré. Comme maman. Je ne
Théodora Demito. Donc nouveau morceau qui est sorti vendredi. Et on attend évidemment les victoires de la musique cette semaine pour savoir combien de trophées elle va rafler.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Nous sommes avec Cyprien jusque 23h. Et alors Cyprien, je sais que tu as... Ah bah tu t'apprêtes à dessiner
bah
sur...
Ouais,
ah
ouais, mais
c'est
vrai, attends, tu peux. On
a des tables dans le studio où on peut dessiner.
C'est des tables d'écoliers en fait.
Exactement.
J'adorerais qu'on ait... Je vois tout le monde qui gribouille là-dessus, mais attends. Ah
oui. Mais personne ne sait dessiner comme toi. Bon, je sais que tu as une passion pour quelqu'un qui s'appelle Takeshi Kitano.
Ah oui.
Et alors... Quand on parle de légendes du cinéma japonais, souvent il y a des noms évidents, Kurosawa, Mizoguchi, et puis il y a Takeshi Kitano, donc un nom à part, parce que c'est un peu une contradiction, quelque part, ce mec. C'est-à-dire que c'était un des humoristes les plus populaires du Japon, au départ, c'est comme ça qu'il a commencé, et en même temps c'est devenu l'un des cinéastes les plus violents, mélancoliques et silencieux du cinéma. Donc avant d'être Takeshi Kitano...
Hors de son pays, c'est ça qui est
exactement,
fou.
Exactement. Il a commencé en tant que Beat Takeshi, une star absolue de la télévision. Est-ce que t'as des...
Son pseudo, ouais, au Japon, il est connu comme Beat Takeshi.
Exactement.
Tu dis Takeshi Kitano. Les gens, il leur faut 2 minutes pour...
Parce que c'est une vraie célébrité en tant que tête de la télévision à l'époque.
On le voyait. Il était dans toutes les émissions. Enfin, tu vois, il était presque H24 à l'antenne, en fait. Et il est connu pour être très... d'un côté pince en rire et en même temps très potache.
Ouais.
Et ce qui fait que c'est pour ça que sa carrière en tant que réalisateur, tu vois, de films...
Elle est étonnante quand tu vois le point de départ.
Exactement, mais moi, c'est pour le coup les artistes qui me fascinent le plus, en fait. C'est des gens qui sont très, tu vois, pluriels dans la manière de s'exprimer. Et autant dans un truc potache que dans un... Enfin, ces films, c'est grandiose dans la manière de, mine de rien, c'est très sensible comme il réalise, ce qui est une grande qualité d'un réalisateur. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, je te jure, quand il va gagner la Mostra de Venise, les gens n'y croient même pas au Japon. Ouais, ça doit être une erreur.
Tu vois, comme si nous, en France, on avait un humoriste. C'est presque Jean-Marie Bigard. Français.
Ouais, je repense, ouais, tu vois, c'est vrai qu'on pourrait, Dubosc, Bigard, mais...
Qui serait une superstar extrêmement respectée dans le reste du monde, pour des films vraiment vus comme des chefs-d'œuvre.
Ouais,
en plus.
Mais c'est un peu ça, c'est pour ça que c'est presque impossible à imaginer, tu vois, tu dis, Bigard, hyper, bon, là, aujourd'hui c'est encore compliqué à imaginer, c'est ça que j'adore, et en fait, parmi les gens qui m'inspirent le plus, c'est souvent des gens qui ont un peu, comment dire, une carrière dans la comédie, et qui arrive à s'exprimer aussi différemment.
Donc c'est un peu, tous pour s'en regarder, mais une inspiration pourtant, en fait, l'espèce de grand écart que lui a réussi à faire.
Alain Chabat, Kitano, Mel Brooks, je sais pas, tu vois, c'est des gens qui savent te faire rire, mais qui ont aussi beaucoup de choses à te raconter de manière sensible, et je suis fasciné par ça, et même globalement, les comédiens, les comédiennes, il y a une... Rose Byrne, je crois, une comédienne que j'adore.
Oui, tout à fait, absolument. Ouais.
Et qui va te faire aussi bien... la comédie que des drames, et je trouve ça fascinant. Même en France, on a quand même beaucoup de comédiens qui ont essayé de faire les deux. Je pense à Pierre Niney, parce que j'ai vu Gourou récemment, et je suis désolé, mais c'est un mec hyper drôle, qui a fait des comédies, tu vois, il les fait genre hyper bien à fond, et en même temps, il va pouvoir aussi exprimer autre chose dans des films, une autre sensibilité, un savoir-faire dans le jeu et tout. Et ça c'est finalement les artistes qui m'inspirent le plus, tu vois.
Comment tu découvres Kitano, toi? C'est via un film en particulier?
Kitano, c'est une bonne question. Je me demande si c'est pas par la musique, parce que Miyazaki, donc le réalisateur des films Ghibli qu'on connaît beaucoup en France, il a un compositeur attitré, à savoir Joe Hisaishi, donc les musiques de Totoro, les musiques de... Voilà. Et en fait, Joe Hisaishi, il compose pour un deuxième réalisateur, c'est Kitano.
Ouais.
Et on est vraiment sur un spectre très éloigné, tu vois, du film de gangster, hyper dur et tout. Et je me demande si c'est pas en écoutant des musiques de Joe Hisaishi, où j'écoutais les musiques de Hanabi, les musiques de L'été de Kikujiro, et je me suis dit, mais c'est génial et tout, c'est quoi ces films? Et c'est comme ça que je découvre. Mais je crois que je connaissais Takeshi Castle, donc toutes ces... Je connaissais déjà les émissions de Kitano.
Tu t'étais intéressé à ces émissions?
Bien sûr, on les a tous vus sur W9 avec, je sais plus comment s'appelle cette émission de Benjamin Morgan.
Ouais.
Où il regardait, il revisionnait des émissions de Takeshi Castle. Et je me suis dit, c'est génial. Je connaissais le personnage parce que je l'ai vu dans Battle Royale. Enfin, tu vois, le comédien, je l'avais déjà vu ailleurs. Et après, là, d'un coup, dans ma tête, ça fait, c'est tellement génial. Et d'ailleurs, tu parlais des autres grands réalisateurs japonais, mais il y a une interview qui est exceptionnelle entre Kurosawa et Kitano, mais je vous assure que c'est le grand écart cinéma, mine de rien. Et en fait, c'est fou parce que Kitano, il n'est pas cinéphile. D'accord ? Je crois qu'il a vraiment pas vu les films de Kurosawa, tu vois.
Et qui sont vus pour, vraiment comme des chefs-d'œuvre absolus, exactement, révérés par les plus grands réalisateurs.
Il a inspiré Kurosawa, il a inspiré Spielberg.
C'est même ces
réalisateurs américains qui ont sauvé la fin de carrière, mine de rien, de Kurosawa, donc c'est génial. Bref, et tu vois une interview où en gros, Kitano, il est très touché, etc. Mais ça se voit que c'est juste un talent brut, tu vois, juste une force d'expression. Et de l'autre côté, t'as Kurosawa qui dit « Mais moi, je suis incapable de faire ce qu'il fait. C'est tellement pur, tu vois.
Ouais, » ouais.
Comment il monte, mais il sait pas monter. Et du coup, tout est une expérience, tout est, ouais, tu vois. Et du coup, ce côté un petit peu fasciné de Kurosawa pour Kitano, je fais « Oh, c'est génial, j'adore trop. » C'est vraiment deux réalisateurs qui me fascinent et qui aujourd'hui m'inspirent énormément. J'adore ce
moment. Puis même dans ces films, c'est vrai que tu parlais des films de gangsters qui peuvent être durs, mais il y a quand même toujours une forme de poésie. Il y a beaucoup de silence.
Bien sûr.
Il y a beaucoup, c'est très contemplatif, en fait. C'est-à-dire que c'est loin des films de gangsters auxquels nous, enfin en tout cas quand on est biberonné un peu au cinéma occidental, le rythme est très différent. En tout cas, c'est vraiment autre chose. C'est même s'il y a de la violence, évidemment.
Voilà. Il essaye de trouver... l'humain au fond de ça, et il remet de l'humanité dans des scènes, dans des personnages et des situations qui n'en ont plus, en fait.
Ouais.
Et je pense que c'est son vrai regard sur la société, tu vois. C'est genre, on est dans un monde violent pour plein de raisons. Ça peut être effectivement un flingue sur la tempe, ça peut être un divorce, ça peut être quelqu'un de malade, en fait, tu vois, la violence de la vie, quoi.
Tout à fait.
Et il va se dire, c'est quoi les humains, c'est quoi les moments qu'il faut retenir là-dedans, et tu te dis, waouh, c'est fou. Bref, plaisir que tu me parles de Kitano.
Mais je l'aime beaucoup aussi. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu Kitano, est-ce que tu as un film à conseiller?
Anabi. C'est les classiques, hein, c'est vraiment là
Sonatine
où il a gagné
aussi,
voilà, et Sonatine, Mélodie morte, je sais plus comment ça s'appelle, le titre en français, mais oui, Sonatine, j'aime beaucoup. L'été de Kikujiro est assez
c'est
inspirant, mais au final je trouve que c'est plus c'est... non mais j'aime tout vraiment. C'est fou, ouais.
Bon, Cyprien est avec nous jusque 23h. Cyprien, tu es là pour la sortie du pire guide du Japon.
Non, je suis là pour te voir.
Je suis là tous les jours. C'est une quotidienne. Je te prends au mot.
C'est plus toi qui es en galère que moi, j'ai l'impression. Incroyable.
Donc évidemment, le pire guide du Japon. Le Japon a été extrêmement montré au cinéma, notamment.
Ouais.
Et parfois avec des regards occidentaux aussi.
Tu veux parler du film Wasabi, par exemple?
Si je ne dis pas de vif, de Gérard Pires avec Jean Reno et Michel Muller.
Wasabi.
Je l'ai jamais vu
sur cinéma.
C'est une production Europacorp, je crois.
Oui, dans le pitch, ça ne m'étonne pas.
c'est finalement cohérent. Je voulais te parler de quelques films qui... Alors, il y a des films évidemment occidentaux, mais aussi des films, bien sûr, japonais, qui, évidemment, c'est logique, ça se passe là-bas. Je veux savoir aussi, toi, ce que tu as... Tu sais, je cite des œuvres, me dis ce que t'en penses, et il y a une, pour le coup, qui est une œuvre japonaise, qui je crois a été très importante pour notre génération, même celle d'un peu avant, c'est Akira. Est-ce que ça a été aussi important pour toi? Parce que c'est vraiment un game changer pour énormément de personnes.
Et dans ma vie, ça a été même viscéral au point littéral du terme, parce que je me rappelle avoir vu ce film sur Canal+, je devais avoir 5-6 ans.
Ouais.
Et il y a la scène où vraiment t'as un des personnages qui voit ses entrailles tomber par terre, et j'étais vraiment dégoûté de la vie, je suis là, traumatisé. Et en fait, au final, c'est toutes les autres images que j'ai retenues. Et Katsuhiro Otomo, le réalisateur d'Akira, a quand même fait ce film, il avait 33 ans.
C'est très jeune.
C'est une dinguerie, quoi.
Ouais.
C'est comme si j'avais sorti Akira il y a 3 ans dans ma vie de life. Ça n'a pas de sens.
Il faut pas se comparer. Chacun son rythme.
Mais Akira, bien évidemment, c'est un de mes films préférés.
Et puis il y a quelque chose aussi, je trouve, d'assez. Évidemment, de mystique dans ce film-là. Enfin, on comprend pas tout. Il y a vraiment le premier visionnage de ce film-là, en plus j'étais jeune. Quelque chose de très énigmatique, tu sais. Dans ce film, j'avais l'impression de pas tout capter, de pas tout comprendre. Et en même temps, c'était fascinant. C'est le genre de... T'as quand même envie d'y aller,
fascinant,
même si tu comprends pas tout, quoi.
C'est une des rares adaptations qui est meilleure que l'œuvre d'origine. Donc, c'est adapté de son manga. Et il a ensuite réalisé. Il a gardé vraiment le plus intéressant en mise en scène et en propos pour faire le film. Ce qui fait que c'est encore plus... je le trouve vraiment impactant. Et en plus de ça, ce que j'adore dans ce film, c'est qu'il est très... il explore aussi la technique. Donc comment réaliser, tu vois, il y a plein de plans qui étaient nouveaux, qu'on n'avait jamais vus avant, les traces de lumière, comment se déplacent les caméras, les débuts de... Il n'y a pas de 3D, mais c'est tellement bien dessiné que ça y ressemble. Et la musique, assez incroyable, mais c'était les premiers artistes et les premiers... les premières diffusions avec des systèmes d'infrasons, etc. Et qui, tu vois, étaient genre inconnus au bataillon à l'époque. Tu vois, des fréquences qu'on pouvait pas reproduire et ils se sont dit, ok, on va les utiliser dans la musique. Et donc il y a tout qui est un peu nouveau. Et tu le regardes aujourd'hui, à part le style un peu des SAP, même si je crois que ça revient un peu à la
exactement,
mode.
Exactement, ça devient presque stylé, ouais, tout à fait.
Exactement, et donc du coup, j'adore.
Ça reste actuel et pertinent.
Profondément cette œuvre, tout à fait. Ouais.
Autre œuvre, alors pour le coup occidentale, de Sofia Coppola, Lost in Translation.
Ah oui,
quel rapport t'as avec ce film?
Bah en fait, c'est de part une aventure assez simple. Ça décrit assez bien ce qu'on peut ressentir quand on arrive au Japon, de moins en moins, parce que mine de rien, comment ils se sont ouverts au tourisme, et en fait, leur tourisme extérieur ne fait qu'augmenter chaque année, tu vois, à cause de moi, entre autres. Hein.
Ça fait combien de fois qu'ils retournent?
8 fois, 9 fois,
okay.
Un truc comme ça. Je ne vais pas non plus tous les ans.
Mais c'est quand même pas mal.
Oui, mon empreinte carbone, vous pouvez débattre. Hein, elle est catastrophique, bien évidemment. Je m'en excuse. Et du coup, Lost in Translation, je trouve que ça décrit un truc, que même si tu n'es pas dans le milieu, parce que ça parle quand même d'un milieu avec ces stars d'Hollywood qui se retrouvent au Japon et qui
pour
sont
faire
un peu
des
perdus,
pubs. Exactement. Ouais, exactement.
Mais ça décrit assez bien ce côté un petit peu perdu où tu dis, avec ou sans toi, ça se voit que la société, elle est, comment dire, tu vois, elle avance et tu peux l'observer. Et tu peux faire partie, comment dire, de ce flow-là ou juste l'observer.
Exactement,
et ouais, j'adore Lost in Translation. Et en plus de ça, le casting est exceptionnel, la réalisatrice est formidable, le sujet et comment ça filme Tokyo, c'est vraiment fascinant. Et j'ai vu pas mal de petits making-of où on voit que ils mettaient leur caméra, ils filmaient beaucoup en loose-dé, sans forcément d'auteur. Ouais. Exactement, et ça, c'est une vraie qualité du film. Et parce que effectivement, les Japonais ils voyaient des Occidentaux avec des caméras, surtout à l'époque, et ils osaient pas trop les flics, genre, tu vois, genre, mais qu'est-ce que vous faites là, etc. Tu vois, parce qu'il y a un peu la barrière de la langue, comment s'exprimer en anglais, etc. Et donc, tu vois, il y a beaucoup de laissés-passer sur comment ils ont pu fabriquer. Et je rebondis juste.
Rebondis.
C'est un peu mon émission, je peux rebondir?
Ah, c'est complètement mon émission.
Il y a une anecdote géniale sur Fast and Furious.
Tokyo Drift.
Tokyo Drift.
J'ai un peu d'affection pour celui-là.
C'est vrai.
Pas te mentir, ouais, ouais.
Tu connais mieux Tokyo Drift que Lost in Translation, peut-être?
Non, mais non, j'ai une affection.
Ouais, voilà, t'as bien raison.
Pour la saga Fast and Furious, plus largement d'ailleurs, mais c'est un autre débat.
Mais il y a, comment dire, une anecdote qui est 100% japonaise, et dans ce que ça raconte et ce que ça dit, même sur comment la société fonctionne. Mais donc, ils tournent le film, ils commencent à faire des images au Japon et tout. Ils n'avaient pas les auteurs pour tout.
Ouais.
Tu vois, forcément, il y a des images qui sont hyper graphiques et des trucs où tu dis waouh, comment ils ont fait pour tourner là, dans des endroits de Shibuya, etc. Donc bien sûr, un bout d'un moment, les flics ils arrivent, ils disent bon bah on arrête le tournage, bidule, qui est le réalisateur? Et là t'as quelqu'un qui dit oui c'est moi, ok tu vas nous suivre et tout. Bon bah c'était un homme de paille, un japonais qui s'est dévoué à la cause.
Ah ouais, ok. Voilà,
un deuxième assistant okay. Du réalisateur qui s'est fait passer pour le réalisateur, pour comment dire,
pour
voilà, un homme de paille, voilà, tu vois, okay. Tombé au combat pour et ils ont repris le tournage dans la foulée. Et je trouve ça génial, je me dis, ça en dit beaucoup sur le Japon aussi, tu vois, sur comment faire un film. Quoi.
On sait ce que ce mec est devenu ou pas?
Une star pour dans mon cœur, c'est tout.
Très bien. Bon, on est avec Cyprien jusqu'à 23h. On va écouter un dernier morceau. C'est le morceau de Dave en featuring avec Thames. Dave, d'ailleurs, que j'ai eu la chance de voir à l'Accord Arena la semaine dernière, et c'était génial.
Je te raconte.
Non, mais ouais, c'est vrai que j'étais invité.
Allez.
C'est vrai que j'étais invité. Super morceau avec Thames, qui d'ailleurs est un vrai tube aussi chez nous. Ça, c'est rare que les artistes anglais aient du succès en France. Dave et Thames s'appelle Rain Dance, et c'est juste génial.
Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Though you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend. The one who gave me the lecture. But I ain't gon' sweat you, babe, I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you. And let me tell you why I'm a blessing. Yeah.
feelings for you. Don't wanna argue, not with you. Tell me why you're so in denial. Hold me close, don't tell me goodnight. Are you down to get me? Tell me when you're ready. I'm ready.
We can get into it, and we can get intimate. The shower when you're singing it, better than Beyonce. I like the sound of fiance. You know it's got a little ring to it. And really when I think of it, growing up I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you are a wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mum's 61 and her favourite line to tell her son is, sometimes you wish that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip. And dinner was a ruin cause you never got the pick. I know that everybody tell me that I'm sick cause
so
Dave featuring Thames, le morceau s'appelle Rain Dance et ça défonce.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Cyprien, tu es notre invité ce soir.
Je t'écoute pas, je dessine,
ouais,
moi, franchement.
Tu m'as dessiné,
c'est,
je crois.
C'est une insulte. Mais là, sur les réseaux, il y a un community manager là de.
Je vais la mettre moi-même, t'inquiète pas, je fais tout seul. Voilà, c'est vrai. Il n'y a pas de community manager. Je suis très préféré en tout cas de voir ça. C'est l'heure des recommandations.
Oui.
Alors, tu m'as envoyé une recommandation, c'est une bande dessinée.
Une bande, bah oui,
qui s'appelle Terre aux Lunes.
Terre aux Lunes de Jadko, ouais.
Jadko, voilà, je voulais pas mal le
prononcer. Ah, j'ai oublié. Peut-être Jadko. Je sais pas.
Jadko, comme il y a deux O, mais.
K-H-O-O.
Alors pourquoi cette bande
dessinée? C'est exactement ce qui fait que j'aime la BD, en fait. Tu vois,
ouais.
C'est une manière d'exprimer, de mettre en scène, de te faire attacher à des personnages, et en même temps, tu peux rester genre une heure à regarder une case, quoi. Et ça, c'est commun sur tellement de bandes dessinées que j'adore, et que ce soit du manga, du franco-belge, du que sais-je. Et c'est un milieu que j'affectionne particulièrement. Et en plus de ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est pas évident pour vivre de ça. Et,
ouais.
Et c'est un métier qui a été très précarisé de plus en plus. Ça s'accélère.
De plus en plus.
Ouais, bien sûr. Les gens, ils ont de plus en plus de mal à vivre. Bon, les gens achètent moins de BD. Il y a peut-être les gens qui se détournent aussi. Bref, mais étrangement, le talent est toujours là, voire si ce n'est même plus par moment. Et du coup, Terre aux Lunes fait partie. Donc, c'est une histoire en deux tomes. Il y a le premier tome qui est sorti là il y a quelques jours. J'ai très hâte de voir la suite qui va arriver. Il faut être patient pour ce genre d'œuvre.
Ouais.
Et c'est vraiment presque chaque case est un vrai tableau. C'est un peu dur de pitcher parce que sinon ça en révèle beaucoup trop, mais oui c'est une histoire d'un garçon qui a une sorte de drame familial dont il fait un petit peu partie, et on comprend qu'en fait le monde dans lequel il vit est bien plus intrigant que ça, alors qu'on dirait que c'est juste une petite bourgade de campagne au fin fond de la Creuse, et en fait
okay.
c'est peut-être
il se passe
autre
chose,
qu'est-ce qui se passe, ouais, et en fait on est en empathie avec les persos, on les voit grandir, il y a une ellipse qui est assez bouleversante et tout, et pour l'instant, c'est la plus grande BD française que j'ai vue cette année.
Okay.
Tu vas me dire, on est tôt dans l'année, mais et ça ne m'étonnerait pas que ce soit la... Bref, s'il y avait eu le Festival d'Angoulême, l'année prochaine, non, mais on va encore reparler de cette BD, j'en suis certain.
Ouais, ouais.
Donc si vous voulez être le premier à lire, parmi les premiers à lire une BD qui, à mon avis, va marquer les esprits, Terre aux Lunes de Jadko. Ouais.
Tu parlais de précarité, justement. Alors, c'est peut-être compliqué à répondre à cette question, mais comment, justement, un auteur, une autrice de bande dessinée, elle peut en vivre? Parce que,
il faut vendre, en fait. Non,
et c'est dur de vendre, même dans l'édition, c'est dur de vendre beaucoup, en fait.
Oui, en fait, c'est une des raisons aussi qui a précarisé la chose, c'est que Avant, il y avait quelques auteurs de BD, voilà, et ils vendaient la totalité des BD.
Voilà, ouais.
Voilà. Donc c'était assez simple, tu avais une maison d'édition, quelques auteurs, et voilà. Et en fait, les années qui passent, certaines maisons d'édition qui apparaissent, etc., commencent à donner de la chance à d'autres personnes, qu'on se dit « Ah, c'est bien, ils prennent du courage, etc. » Mais aussi, ils commencent à faire des plus petits contrats, tu vois. Du genre, tu vas vendre moins, on croit en toi, mais pas trop. Et si ça vend pas, on débranche aussitôt, etc. Et en fait, toutes ces décisions qui viennent, je pense quand même beaucoup aussi des éditeurs, du marché aussi, mais et ben fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont auteurs de BD, parce que c'est techniquement leur métier, mais c'est dur d'en vivre correctement. Et ouais, il y a plein de gens qui sont reconnus dans le milieu, qui ont des prix, etc. Et je te jure, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et du coup, c'est ouais. Un des trucs qui, moi, me tue un peu là-dedans. Quoi. Ouais. Je me dis, mais c'est des gens qui m'inspirent, c'est des gens que j'adore lire, etc. Et quand tu vois vraiment la bataille que c'est au quotidien pour eux, je me dis, il y a quelque chose qui cloche et il faudrait vraiment régler ce truc-là. Là, cette année, Angoulême a été annulée pour plein de raisons justifiées. Et je suis content que, mine de rien, il y a des choses qui soient revendiquées et qui aillent jusqu'au bout. Et je rêve que ce milieu-là soit assaini sur plein de niveaux. Quoi. Donc, c'est pas un combat pour moi, mais c'est en tout cas quelque chose dont je suis très sensible. Et j'ai des amis qui sont là-dedans. C'est un rêve, moi, de quand j'étais gamin, de pouvoir faire partie de ce milieu-là, ou en tout cas d'apporter ma petite BD à la bibliothèque, quoi. Et en fait, je me dis, il faut œuvrer un peu pour sauver un peu ce climat-là.
Cyprien, c'est l'heure de la question qui tue.
Aïe, aïe, aïe.
Eh oui.
Tue-moi. Vas-y.
Moi, on te l'a peut-être déjà
niveau,
posé.
Hein, mais vas-y.
Tu pars sur une île déserte. Voilà, okay, tu vois, c'est la fameuse question, tu la sens venir.
Ouais.
T'as le droit à une bande dessinée ou un manga, pas un et ou. Qu'est-ce que tu prends sur une île déserte, hein. Vas devoir te la taper plusieurs fois, cette bande dessinée ou ce manga.
Ah ouais.
T'as que ça.
Donc il doit avoir un petit peu de cul dedans quand même. Une île déserte, tu dis ?
Une île déserte, absolument.
Je plaisante. Non, mais en fait, j'ai assez peu de doutes. J'hésite entre deux, soit un tome d'Astérix. Parce qu'en fait, il y a ce plaisir génial de regarder chaque case et en fait, tu peux le lire genre 20 fois et en fait, tu vas dire « Ah, j'aime trop comment il a... » Qu'en fait, ce personnage-là dans le fond, etc., etc.
T'as un album favori ?
Est-ce que j'ai un album favori ? Non, mais je pense que c'est vraiment... J'ai lu le plus ce qui était, tu vois, genre devant moi. Alors peut-être pas les premiers, ils sont assez, tu vois, Astérix le Gaulois, un peu oldies et tout. Mais
le package et ouais.
Ouais, ceux où ça voyage quand même, tu sais, il y a un peu deux catégories d'Astérix, il y a ceux où c'est genre un peu, ça se passe plus, genre le combat des chefs par exemple, tu vois, il se passe vraiment dans le village
et tout.
Et puis il y en a d'autres où ça voyage, et étrangement je préfère quand ça voyage, j'aime bien, et en vrai les derniers là, avec Fab Caro qui écrit, je trouve ça assez fascinant, en Lusitanie j'ai beaucoup aimé. Mais non, je saurais pas dire. Donc du coup, je vais plus vers un tome de Dragon Ball.
Ok.
Voilà, on les relit, je les lis en ce moment avec mon fils, etc. Donc parfois il pose la question, il me dit pourquoi elle a pas de culotte Bulma, et là je me suis dans l'embarras, tu vois. Je me dis merde, c'est vrai que c'est pas une blague qu'on peut assumer facilement aujourd'hui.
Tout à fait.
Mais ouais, un tome de Dragon Ball.
Ok.
Le premier tournoi par exemple face à Jackie Chun, ça c'est, je pense, je peux le lire à l'infini. Et d'ailleurs je le lis à l'infini, donc
tu le lis à l'infini.
Je vois pas pourquoi ça changerait.
Ouais.
Sur une île déserte.
Tu voulais être qui quand t'étais petit dans Dragon Ball, Sangoku ou t'as...
Mais en fait dans Dragon Ball Z pardon, je m'identifie beaucoup à Sangoten parce que j'ai un grand frère. Donc pour moi, lui, ça devait être Sangohan, tu vois. Donc par extension, mon père, ça devait être Sangoku. Aucune ressemblance. Mais du coup, le petit deuxième qui se fait sa place et qui, en fait, il y en a sous le... Tu vois, il y en a un petit peu sous le coude et tout. Et il fusionne avec Trunks et en fait, il sauve un peu la mise de tout le monde et tout. Je me dis, ah, Sangoten, il est un petit peu badass. Bon, design, bah, c'est juste une retape de Goku.
Oui, petit, oui.
Donc c'est, non. Mais ouais, moi. Et toi, tu t'identifies à qui?
J'ai pas
le zoo. Non, t'as pas les personnages.
Non, à Tortue Géniale.
Tortue Géniale.
Voilà, je dis ça comme ça. Chauve. Il y a un chauve. Donc voilà. Moi, dès qu'il y a un chauve, je vais vers lui.
Pervers. Aïe, aïe, aïe.
Ok, let's go. Ok, je connais pas ces Dragon Ball. Cyprien, merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup. Merci. Donc, on rappelle que le pire guide du Japon, c'est le livre que tu viens de sortir. Merci beaucoup, livre bande dessinée.
Merci de m'avoir invité.
Avec grand plaisir, vraiment. C'était un plaisir de parler avec toi. Et merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alex Alacour et Redouane Tella. Réalisé par Gaëtan Cohy, la programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Laurent Baudouin et Gaspard Guy Bourget. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, même heure, nous serons avec la chanteuse Oli Brune pour découvrir ou redécouvrir nos émissions. Abonnez-vous sur l'application Radio France.